Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Où le réchauffement climatique bat son plein et où les conflits pour l'eau se multiplient, où la question de l'eau devient centrale dans la grande majorité des luttes contre les grands projets inutiles et imposés, nous avons décidé de consacrer 3 émissions à la question. Et ça commence tout de suite. Bienvenue sur Radio Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez le Zoom Écologie et il est 20h30. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'Arpenter qui est aux manettes et on accueille l'anthropologue Fabienne Watteau. Bonjour.
Bonjour.
Les causes du problème sont plus politiques qu'écologiques. Aujourd'hui, je suis plus politico-désespérée qu'éco-anxieuse. C'est ce qu'affirme la chercheuse en sciences de la Terre Anne-Marouane Pastier. C'est elle qui a chapeauté la rédaction de la contre-expertise qui démontre le caractère néfaste des méga-bassines dans le Marais Poitevin et leur inadaptation pour résoudre le phénomène récurrent de sécheresse qui touche cette région. Alors, Anne-Marouane Pastier, elle décrit tout un tas de solutions alternatives aux bassines qui ne sont pas mises en place parce qu'elles pénalisent les plus grosses exploitations. Et ça, c'est vraiment l'exemple parfait et assez paradigmatique quand on parle de l'eau en France, pour montrer que même si les conditions climatiques jouent un rôle important dans le fait que l'eau pourrait venir à manquer ou venir à être polluée, ce sont souvent les modalités de partage qui créent la pénurie ou la pollution. Alors, nous avons décidé d'intituler cette série d'émissions « Mettre les eaux en partage » pour bien montrer le caractère actif de ce partage. L'eau n'est pas seulement partagée, elle est mise en partage selon des règles sociales ou des décisions politiques qu'il s'agit pour nous d'explorer lors des 3 prochaines émissions d'Arpenter. Je vous rappelle, c'est tous les seconds jeudis du mois. Nous parlerons principalement des eaux douces, les rivières, les glaciers, les lacs, les eaux souterraines, etc. Mais principalement des rivières. Et pour cette première émission, nous accueillons donc une anthropologue, Fabienne Watteau. Vous êtes chercheuse au CNRS, attachée au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à l'Université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la revue Atelier d'anthropologie, entre autres. Vous travaillez de manière transversale sur la question de l'eau en anthropologie et dans votre thèse « Partager l'eau, irrigation et conflits au nord-ouest du Portugal », vous essayez de résoudre un paradoxe. Pourquoi y a-t-il des conflits pour l'eau dans une région qui en regorge pourtant ? Alors, on pourrait croire que là, on prend un peu le contre-pied du contexte dans lequel on a fait cette émission, à savoir les conflits dans les contextes de pénurie ou de pollution d'eau. Mais en fait, on l'a vu, tout ça, ça dépend d'une certaine organisation sociale et politique autour de l'eau. Et cet exemple, on l'espère pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, sera éclairant. Fabienne Watteau, donc merci encore d'être avec nous. On va parler de tout ça tout au long de l'émission. Est-ce qu'on peut commencer par décrire la région dans laquelle prend place votre enquête ?
Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Donc, la région où j'ai travaillé dans les années 90, donc ça date un petit peu quand même, est une région de petites montagnes à l'extrême nord-ouest du Portugal, à la frontière avec l'Espagne, simplement séparée par la rivière, par le Minho, qui se caractérise par... un habitat dispersé, par un espace rural, par des terres de minifondia, c'est-à-dire moins de 2 hectares, et par une population dispersée dans ce paysage assez magnifique. Alors, à cette époque-là, je viens parce qu'il y a des conflits, alors qu'il y a plein d'eau, et je trouve que le paradoxe est assez intéressant, alors que j'avais lu que si l'eau... créer des conflits, c'est parce qu'elle n'était pas suffisamment abondante, donc ça crée la convoitise, donc les gens se tapent dessus, et ben c'est bien plus compliqué que ça. Donc cette région regorge en eau, il y a 3000 mm d'eau sur les sommets, donc c'est énorme, hein, c'est très luxurieux en paysage, et pourtant elle est l'enjeu d'un intérêt extrêmement fort, notamment pour son partage, et j'ai envie de dire tout de suite que rare ou abondante, l'eau est précieuse dans tous les cas de figure. Elle fédère les gens, parce que ceux qui ont droit à utiliser cette eau sont des gens qui vont vers elle pour pouvoir la partager. Il va falloir se réunir, décider de comment l'acheminer jusqu'aux parcelles. Alors les parcelles en question, à cette époque-là, c'est destiné à la polyculture vivrière, c'est-à-dire des petites parcelles où on a à la fois, comme sur des modèles andins, du maïs, du haricot qui profite du maïs pour grimper sur son pied, de la courge, et puis... des tomates, des salades, enfin ce que vous voulez, ce qui pourrait ressembler à un potager. Et en périphérie de ces parcelles, on a de la vigne qui est placée en pergola, qui sert à la fois à délimiter les parcelles et puis donner de l'ombre aussi, parce que les rigoles, elles vont continuer à cheminer de la montagne jusque dans la vallée, sous ces chemins protégés de l'eau. Donc c'est de l'ombre pour tout le monde, fort agréable, pendant au plus fort de l'été.
D'accord. Donc ça, c'est jusque dans les années 80 ou 90 à peu près,
alors, jusqu'aux années... Alors, il se passe quelque chose dans ce paysage très particulier, très luxuriant. C'est qu'à partir de 1986, l'Espagne et le Portugal rentrent dans la communauté européenne. Et en 1992, se sentent les premiers effets de cette entrée dans la communauté européenne, puisque l'Europe décide, enfin la PAC, décide de proposer à cet endroit, à ce lieu, de se spécialiser en monoculture de vitivinicole. Donc on passerait d'une polyculture vivrière à une monoculture plus intensive.
Ça, on y viendra en deuxième partie de l'émission sur la PAC. Mais d'abord, peut-être on continue un peu de décrire ces paysages qui a donc jusque dans les années 90, tout début des années 90. On a cette agriculture, cette polyculture vivrière. Comment est-ce que concrètement l'irrigation s'organise ? Vous avez commencé à nous parler des petites rigoles en bas des pieds de vigne, mais comment ça se passe ?
Alors, dans cet espace, il y a de la chance, il y a de l'eau qui coule. Il y a des sources en montagne, il y a une pluviométrie forte, on dresse même l'été, et de l'eau coule. Il reste plus, si on peut parler dans ces termes, de la cheminée, de la contenir et de la réserver en certains endroits. Donc il existe dans ce paysage un certain nombre de bassins de retenue d'eau. Donc ça ressemble à des grandes mares équipées d'une bonde et qui sont des infrastructures simples, puisque contre un flanc de montagne, on va faire une installation basique qui pourra retenir, je ne sais pas combien de litres d'eau, mais des petites quantités d'eau, et c'est acheminé, c'est alimenté par des sources qu'on est allé chercher. Donc on est allé identifier, repérer, nettoyer, et on a nettoyé aussi le circuit d'écoulement de l'eau, donc ouvert un petit peu les rigoles, nettoyé. Éventuellement, dans certains cas de figure, ça peut être cimenté, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Et cette eau-là est acheminée dans de meilleures conditions, donc elle est plus importante en termes de quantité dans ces bassins de retenue. Alors, on a aussi des rigoles cimentées, tout simplement, aussi, sur d'autres endroits, sur des modes plus classiques de distribution. Et après, il y a un système de roulement. Alors, l'irrigation, elle est surtout pratiquée au moment où on en a besoin. C'est l'été. En général, il commence autour du 24 juin jusqu'au 7 septembre, au 8 septembre, plus strictement, parce qu'il y a une fête ensuite et que ça s'arrête là. C'est un marqueur... temporel et spatial. Après, on passe à autre chose. On passe à d'autres activités. Donc, ça se termine en début septembre. Et durant ces semaines d'été, il y a des systèmes de partage de l'eau avec des tours d'eau qui sont organisés entre les ayants droit à l'eau. Alors, les ayants droit à l'eau ont un nom. Ils s'appellent les Irdeilu. Ça veut dire qu'ils sont les héritiers. C'est la traduction. On peut se poser la question, héritier de quoi ? Alors, il est possible d'imaginer, et l'anthropologie en général a vu ça dans d'autres cas de figure dans le reste du monde, il est possible d'imaginer qu'au moment où on a eu besoin d'un peu plus d'eau, alors quand a-t-on eu besoin d'un peu plus d'eau ? Probablement quand le maïs a été introduit dans la région, c'est-à-dire 1850 et un peu après, parce que jusqu'alors, les pluies suffisaient à arroser le millet. Voilà. Donc, avec l'introduction du maïs au nord-ouest du Portugal, les hommes probablement, sont allés chercher l'eau, parce que le maïs est plus demandeur en eau. Et ce maïs a permis aussi, par le grain qu'il offrait, par tout ce pain de maïs qui va devenir très caractéristique aussi de cette région, de déployer... et de permettre une démographie beaucoup plus forte, donc de développer l'espace. Donc probablement que des hommes se sont mobilisés pour aller chercher l'eau de ces montagnes et puis organiser un système. Donc organiser les systèmes, identifier les passages de l'eau, construire ces bassins de retenue de l'eau qu'on trouve, qui s'appellent des poços. Et après, dans leur champ, les gens peuvent faire des tanks. Alors, les tanks, c'est davantage une piscine, si vous laissez un bassin en béton étanche qui va retenir l'eau. Quand on y a droit, et ben, on l'écoule jusque-là, puis après, on se débrouille pour l'utiliser à sa façon, à l'heure qu'on a envie. Mais au moment où c'est l'heure de votre prise d'eau, il faut aller chercher l'eau. Donc on peut la stocker. Mmh. Donc ces poches, ces bassins sont organisés autour de bassinets qui peuvent, où il y a des ayants droit. Donc si vous avez 10 personnes qui sont allées chercher l'eau, et ben on peut imaginer qu'on va faire un tour d'eau sur 10 jours. Chacun a une bassinée par jour, ou bien on coupe la journée en deux, comme ça, on va faire ça sur la moitié, une bassinée le matin, une bassinée l'après-midi, et chaque personne va prendre une bassinée pour elle entière, et puis au fil des temps, avec le partage égalitaire des biens, et ben ces bassinées, elles vont être divisées, il va y avoir un ou deux ou trois ayants droit à cette même bassinée, qui va introduire un roulement, un partage, un circuit dans cet ordre de prise de l'eau. Donc on a des infrastructures plutôt simples avec des organisations sociales assez complexes où chacun doit savoir où il est, où il se trouve dans la place des tours d'eau, c'est-à-dire avant qui et après qui il doit irriguer, sans se tromper. Les droits de l'eau ne sont pas écrits. D'accord. Donc on a...
Alors comment c'est déterminé ? Comment on sait qui a droit à l'eau ?
Alors c'est ça qui était compliqué parce que mon réflexe fut d'aller dans les cadastres et j'ai rien trouvé en particulier où je trouvais des petites mentions. Donc les gens savaient, quand j'allais ou sur le terrain, j'allais voir les gens, c'était les hommes qui me répondaient, mais je voyais bien qu'ils ne savaient pas très bien, c'était les femmes qui pratiquent l'irrigation. Donc après, j'ai pris un peu une autre technique, je suis allée directement sur le terrain, j'attendais sur les parcelles, et les femmes venaient, et là je pouvais leur demander comment elles faisaient, comment on pratiquait, combien de temps d'eau elles avaient, et j'ai reconstitué des généalogies de parcelles, parce que ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment les droits d'eau passaient d'une génération à une autre. Mm. Donc dans cet espace du nord-ouest du Portugal, du canton de Melgaço, parce que ce n'est pas sur l'ensemble du Portugal, les droits se transmettent préférentiellement de femme en femme, ou de femme en nièce. Mm. S'il n'y a pas, on a un garçon là. Et puis la transmission des terres irriguées sont vers les femmes, et puis les terres sèches vers les hommes.
D'accord.
Le mariage idéal, s'il faut en parler, c'était un homme héritier de terre sèche avec une femme de terre irriguée à eau, plus proche de la maison. Elles sont aussi les héritières de la maison, au moins l'une d'elles. On est aussi dans un espace où il y a de fortes émigrations masculines. Hein, pendant...
Donc on a commencé un peu à en parler, mais selon quelle modalité l'eau elle est partagée dans ce cadre-là ? On parle d'heures solaires c'est...
Alors, il y a plein de systèmes, il y a presque autant de systèmes qu'il y a de rigoles d'eau. C'est ce qu'il y a. Il y a une abondance aussi en imagination et en organisation. Donc je vous ai déjà parlé des bassins de retenue. Là, c'est une bassinée le matin. Mmh. On ouvre à 6h, on ferme à 9h. Enfin bon, une bassinée le matin. Donc on va laisser l'eau se concentrer dans une mare à la bonde fermée. C'est pas une mare, parce qu'une mare, justement, il n'y a pas de bonde, une espèce de grande baignoire, un bassin. Donc on va accumuler de l'eau et on va partager avec une canne à mesurer l'eau les quantités disponibles. Donc il ne s'agit pas de mesurer des litres. On ne va pas se mesurer des litres. En revanche, on a une quantité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait compliqué. Mais on a une quantité qu'on va partager. S'il y a plus d'eau, bah, tout le monde a une part. On sait qu'on a la moitié de la mare ou un quart de la mare. Et avec un système de marquage de la canne à mesurer l'eau, on va se répartir la quantité disponible. Si un jour, il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a une fuite ou parce que la source s'est tarie, bah, c'est proportionnel. Chacun n'aura que le pourcentage de l'eau disponible qui est dans la mare. On a d'autres systèmes qui se basent aussi sur du solaire, où on a des pierres de partage. Alors, ça semble très ancien, mais c'est toujours en activité. C'est ça qui est étonnant, puisque je suis retournée sur le terrain là, en 2023, et on a encore de ces systèmes en place, parce que, me disent-ils, il n'y a pas de raison que ça change. C'est efficace en termes d'efficacité technique. On a des cadrans solaires. Donc le cadran solaire, ça nécessite d'aller à une certaine heure à un repère qui est une pierre de partage de l'eau où les gens vont régler leur montre. En général, ils ont deux montres différentes parce que on peut avoir presque 1h40 de différence entre le début de l'été et la fin de l'été, justement. Donc c'est ça qui est rigolo. On va régler sa montre à l'heure de l'eau et pas à l'heure solaire, enfin à l'heure solaire justement et pas à l'heure officielle des églises ou du temps simplement scandé. Et on a un système avec du déplacement de l'ombre. Donc l'ombre va vous indiquer, et on a des encoches, et quand l'ombre arrive sur telle encoche, et ben vous avez le premier quart. Et les gens savent qu'ils ont l'eau dans ce premier quart.
D'accord.
Et puis ils ont dans le deuxième quart. Et puis après ça, et ben on a un système de roulement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui est le quart du matin où il y a moins d'évapotranspiration. Donc on a un roulement qui est introduit. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. D'autant, je vous l'ai dit, qu'il y a quelques petits aides-mémoire personnels en disant, bon, tel jour j'ai l'eau du matin, tel jour la fois d'après j'ai l'eau de l'après-midi, je suis avant Manuel et après José, et je vous donne des noms d'hommes, mais c'est les femmes, je vous l'ai dit, qui vont irriguer, c'est ça aussi qui est amusant. Et donc c'est extrêmement complexe, mais ça crée une sociabilité extrêmement forte aussi, puisque les gens se croisent dans les différents endroits, se demandent quand ils ont oublié, vérifient aussi qu'il n'y ait pas de vol aussi éventuellement dans l'eau, parce que je vous l'ai dit, même abondante, l'eau est précieuse.
Oui, ça crée des conflits.
Ça crée des conflits, mais ça crée un vocabulaire pour la discussion, disait Clifford Geertz, puis conflit structurant, dit George Simmel. Donc on a tout intérêt à passer par le conflit pour se parler plutôt que de ne pas se parler du tout. Enfin, c'est parler un peu fort. Mais ils savent très bien faire et tout va bien. Même si ça peut aller jusqu'au tribunal dans certains cas de conflits véhéments.
Une chose qui m'a frappée, c'est que on parle d'ayant droit à l'eau, d'héritier, et pourtant c'est très égalitaire, enfin équitable, égalitaire. Est-ce que l'eau apporte une place sociale? Enfin, être en ayant droit à l'eau, ça donne une place sociale particulière
à Maïl. Avoir droit à l'eau, être un héritier, c'est mieux que de ne pas l'être. Et s'il y a des héritiers, ça veut dire que certains ne le sont pas. C'est-à-dire que certains sont les descendants de ces gens qui sont allés chercher l'eau, et d'autres ne le sont pas. Ou alors, ils ne le sont plus parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils n'étaient plus là et qu'on ne leur a pas dit. Parce que on a aussi ce qu'on appelle le droit d'usucapion. Si au bout de 20 ans, on n'utilise plus l'eau de façon ancestrale comme on l'avait fait, ben votre voisin il peut considérer que l'eau lui appartient. Donc on peut, quand tous ceux qui sont restés et qui ont la connaissance des pratiques d'irrigation estivale, regardent ce qui se passe. Si jamais personne n'utilise la part d'eau parce qu'ils sont partis, ils ont oublié, eh bien au bout d'un certain temps, on peut se l'approprier et c'est même pas du vol, c'est légal.
D'accord.
C'est un droit. Donc, on a droit d'utiliser la ressource. Mais il y a tellement de systèmes que, au bout du compte, les gens, s'ils ne sont pas héritiers de cette rigole-là, ils vont l'être d'un autre. Où il y a aussi des mines d'eau, il y a aussi d'autres systèmes pour pouvoir avoir accès à cette ressource.
Eh ben, on va faire une petite pause musicale avant de revenir à tout ça. On s'écoute Alexandre Desplat, je crois, issu du film La forme de l'eau.
Thank you.
Bonjour, vous êtes de retour sur le Zoom Écologie. On parle d'irrigation et de partage de l'eau dans le canton de Melgaço, au nord-ouest du Portugal, avec Fabienne Vato. On a parlé donc de l'organisation de l'irrigation et du partage de l'eau jusque dans les années 80-90. Et puis arrive l'Europe, l'intégration européenne. Comment est-ce que les relations ancestrales autour de l'irrigation, elles changent avec l'intégration européenne ?
Alors elles changent et elles ne changent pas. Puisque elle ne change pas, puisqu'on a toujours ces systèmes dont je vous ai parlé à l'instant, avec du partage de l'eau pour certaines petites parcelles qui restent, somme toute, des potagers domestiques, avec toujours l'eau des mares, on continue d'utiliser ces systèmes. Mais, en effet, l'introduction l'entrée dans la communauté européenne et les propositions de la PAC sont aussi entendues comme étant le moyen de gagner des gains plus rapides d'un point de vue économique et de transformer donc cette économie domestique en économie plus marchande, hein, et donc de gagner de l'argent en vendant, en produisant du vin à destination des marchés nationaux mais aussi internationaux. Donc là, la proposition que font les ingénieurs en agronomie, c'est de, après avoir visité toutes les terres, de proposer aux gens, aux terres bien exposées, d'arracher leurs parcelles, les pieds de vigne qui étaient en périphérie de leurs parcelles, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de les arracher, de venir les présenter aux ingénieurs qui, en échange, leur donneront des pieds de cépage noble Alvaline, et puis qui leur expliqueront qu'ils vont les accompagner aussi dans la transformation de ces parcelles à des fins plus intensives. Mais ce qui se passe au niveau de la population, et ça c'est très intéressant et c'était pas du tout prévu, hein, personne n'avait anticipé cette situation, c'est que les propriétaires des parcelles qui étaient situées à l'ombre et qui n'avaient pas été choisis finalement par les ingénieurs en agronomie vont aussi arracher leurs pieds de vignes situées en périphérie de parcelles et les rendre aux ingénieurs qui leur disent mais non, mais à vous, on ne vous avait pas dit que oui, donc, mais qui vont s'insurger en disant mais je ne vois pas pourquoi mon voisin va pouvoir bénéficier de cet avantage que vous présentez pour l'économie dans le cadre de l'Europe et nous pas, et ce voisin c'est quand même mon cousin, enfin bon, c'est quand même une injustice manifeste en termes de paysage et en termes de situation que vous nous promettez. Donc la réaction est telle, les arrachages de pieds de vigne en parcelles, de toutes les parcelles, est telle que ce sont les ingénieurs qui vont céder et qui vont accepter de mélanger les raisins du soleil avec les raisins de l'ombre. Mmh. Et finalement, et somme toute, au regard du résultat aujourd'hui, tout fonctionne très bien puisque le vin vert Alvaline se vend au moins 10 euros la bouteille à l'étranger. Et j'ai même vu au mois de janvier un article tout à fait intéressant dans la presse portugaise, vantant la production d'un vin vert Alvaline de caste strictement situé à l'ombre et qui était vendu 33 euros. Donc vous voyez, les exploitants de l'ombre ont aussi trouvé leur gain et c'est très amusant comme situation. Tant et si bien que cette innovation technique, parce qu'elle est en étude, n'a pas été contestée du tout, seulement pour des histoires de distinction qu'elle pouvait introduire entre les voisins de parcelles, elle a été acceptée. En 5 ans, le paysage a radicalement été changé. En 5 ans, toutes les parcelles de polyculture vivrière cernées de vignes sont devenues des champs intensifs, on appelle ça des champs extrêmes, campo extrême, intensifs, comme les paysages finalement de vitivinicoles que nous connaissons en France, par exemple, qui permet en effet de passer des petits tracteurs, qui permet une exploitation plus régulière et puis qui permet une spécialisation. Donc on s'est spécialisé très vite dans cet espace. Alors en matière d'eau, ça a un effet, parce que normalement on n'a pas le droit d'irriguer au plus fort de l'été les vignes. Donc on avait un espace riche en eau, utilisée depuis toujours. Cette eau était utilisée depuis toujours. Et puis l'Europe, finalement, invite à ne plus utiliser cette eau parce que la culture prioritaire a changé. Voilà. Donc on a maintenant une combinaison des pratiques avec, évidemment, quand c'est possible, hein, ils disent que localement, avec un hectare de vigne alvaline, on gagne sa vie. Donc vous voyez qu'avec très peu, ça semble être... C'est quand même le canton le plus riche en argent en banque dans les années 90, puisque l'immigration est très forte. Et aujourd'hui, c'est un des cantons qui fonctionne très, très bien au Portugal.
Et ça reste des petites surfaces ?
ça reste des surfaces petites parce qu'en fait, comme on est dans un paysage de petites montagnes, on a des terrasses.
D'accord.
Et en fait, alors si le paysage semble uniforme maintenant ou homogène, ça ne veut pas dire qu'il y a eu remembrement. Il n'y a pas eu remembrement. Toutes les parcelles sont des niveaux différents de terrasses. Et donc, de ce fait, ça reste des petites propriétés qui peuvent être nombreuses. Hein. On peut avoir de nombreuses petites propriétés qu'on va acheter au fil du temps. Mais ce n'est pas l'objet d'un remembrement parce que la topologie ne le permet pas.
D'accord.
Et on a des murets, parfois, pour pouvoir de soutènement, pour pouvoir tenir ces différents niveaux en terrasse.
Ça n'a jamais été un projet de l'Europe de faire un remembrement là ?
Ça ne ferait pas sens.
Ouais.
D'accord. Là, elles sont très bien exposées, elles sont très bien consolidées. Il n'y a pas de raison de faire de remembrement.
Et est-ce que ça a changé quelque chose dans les relations sociales, du coup, ce changement de paradigme un peu agricole ?
Ce qui a pu changer, c'est qu'on a des coopératives, ce qui n'était pas du tout un espace à coopératives. Donc on a des gens qui ont été obligés aussi de considérer le collectif d'une façon différente. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça a permis aux plus débrouillards, aux plus chanceux, aux plus, c'est là ce que vous voulez, de se faire énormément d'argent, parce que c'est un secteur qui fonctionne très très bien. Et puis on a aussi un tourisme maintenant possible de nos tourismes, enfin, où les gens viennent visiter les caves. On a des gens du monde entier qui viennent se rendre dans cette région délimitée, très spécifique, unique en son genre. Donc on a une grande attractivité aussi d'un point de vue de tourisme spécialisé. Donc certains, oui, ont gagné beaucoup de profits. Je ne pense pas que ça ait changé véritablement la structure en place d'un point de vue relationnel. On a possibilité de faire un peu de tout. Ce qui est différent maintenant, c'est qu'en effet, les gens y ont beaucoup gagné, je pense.
D'accord. Et est-ce qu'on peut revenir du coup sur cette considération du collectif ? Qu'est-ce qui est, peut-être plus précisément, qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus
replié
sur sa parcelle.
D'accord.
On était avant propriétaires de petites parcelles. Ils sont tous propriétaires. Hein. Oui. On était plutôt organisé autour de sa terre, de sa parcelle. Les injonctions de l'Europe, le changement d'échelle, les législations font que y a forcément des réunions qui vont se faire, il y a forcément des moments et des temps qui vont obliger à la cueillette, aux vendanges, à conduire tout ce vin dans les coopératives, à avoir un autre rapport dans la production. En fait, c'est le rapport de production qui change. Mmh. Donc on a davantage de marchands de vin aussi maintenant. On a un solar de la Varigne, c'est-à-dire que dans l'ancienne prison au centre de la ville, ils ont fait un espace de démonstration où on peut goûter, où on peut acheter les produits de référence, maintenant la carte d'identité du lieu. Ce qui change peut-être aussi en termes d'eau ou de paysage, donc le paysage est plus homogène en termes de quantité de verre, par exemple. Les verres sont tous les mêmes maintenant. On avait autrefois des paysages beaucoup plus riches d'un point de vue visuel, puisque vous aviez plein de couleurs différentes, et on comprenait mieux le paysage de par la disposition des parcelles et leurs spécificités. Certaines même étaient laissées en pâture pour y mettre éventuellement une brebis, une vache, pas beaucoup de vaches, mais quelquefois quelques animaux de petite taille, en l'occurrence, en certains lieux. Ce qui a changé aussi maintenant, c'est le traitement avec tracteur, mécanique, et puis les intrants, parce que évidemment, on sulfate, il faut sulfater la vigne, et elle est sulfatée. On n'est pas. Certaines parcelles sont en bio, mais on a quand même une grande production avec une agriculture conventionnelle.
Oui. Est-ce que les gens ont quand même encore leur jardin ?
Les gens ont beaucoup de parcelles. Ils ont toujours des jardins non loin. Ils ont des parcelles de potager, oui.
Mais qui continuent d'irriguer comme avant ?
Qui continuent d'irriguer selon les mêmes principes. Et j'avais, dans les années... En 2005, je suis allée réaliser ce film « La canne à mesurer l'eau ». Auprès de mes interlocuteurs, donc je connaissais bien ce que je voulais montrer, je connaissais bien le système de la mare et de son système de roulement sur 19 demi-journées avec cette rotation. Donc j'y suis retournée avec une petite équipe, un preneur de son et un caméraman, et on a filmé pendant une semaine, et on a Et ça continue. Là, quand j'y suis retournée en 2023, je suis allée me repérer dans les lieux, essayer de retrouver la mare, et j'ai retrouvé la mare, j'ai retrouvé des ayants droit qui continuent d'utiliser l'eau. Donc il y a moins d'ayants droit parce que certains sont morts, parce que les jeunes ne sont plus là. Le problème de ces terres de l'intérieur, c'est la désertification. Enfin, je veux dire, c'est les problèmes de l'intérieur. On a moins de jeunes, mais les jeunes qui sont là savent utiliser les systèmes. Et on a encore des interlocuteurs. Et quand on a présenté le film en 2023, en plein air, dans le village, j'avais des gens que je connaissais déjà depuis 30 ans qui continuent d'utiliser de la même façon et qui sont aussi propriétaires de terres d'alvaling, c'est-à-dire qu'ils ont aussi rempli leur poche par l'économie de distribution de ce vin. Donc tant mieux pour eux. Quoi.
Ça t'est bien reçu, ce film ?
Oui, il a été bien reçu, ce film. Les gens aiment bien se voir, en général.
Ouais.
Puis ça raconte le déroulé d'une semaine, tout tranquillement. Donc, les gens sont contents, oui, en général, oui.
La notion de société d'irrigation, peut-être que j'ai mal compris. Alors, c'est pas quelque chose qui fait sens à Malgasso.
Je peux pas qualifier... Enfin, il me semble difficile de... Une société hydraulique ou une société d'irrigation. Je veux dire, ils irriguent tous parce qu'ils ont des lopins de terre et que ce serait quand même idiot avec de la bonne terre bien exposée et de l'eau qui coule en abondance de ne pas utiliser l'eau. Certains ne l'utilisent pas, hein. ils ne sont pas obligés non plus. Mais enfin, c'est quand même assez facile de faire pousser des choses qui poussent bien et qui sont des produits qu'on connaît. Donc, bon. Mais ce n'est pas une société d'irrigation dans le sens où on n'a pas affaire à une riziculture où tout le monde serait directement concernés par ce type de production. Les gens auxquels on a affaire ici ont aussi un autre boulot. Ils sont secrétaires de mairie, ils sont policiers, ils sont juges. Enfin, je veux dire, ils ont d'autres professions. Et par ailleurs, ils pratiquent l'irrigation depuis toujours parce qu'ils ont hérité aussi de ces pratiques en même temps que l'eau ou les droits d'eau. Donc certains s'y consacrent plus que d'autres, surtout quand ils sont plus vieux. Mais ça ne pose. C'est pas spécifiquement tourné vers l'irrigation.
D'accord.
Ils font tous autre chose, en général. Et ils profitent de ce que l'environnement et le paysage, dont ils ont la chance de bénéficier, leur offrent pour optimiser la terre et l'eau.
Oui. D'accord. Bon, ben, on va repartir sur une pause musicale, cette fois en écoutant La rivière de Pomme. Sur Radio Fréquence Paris Pluriel, dans le Zoom Écologie, et on parle d'irrigation, de partage de l'eau avec Fabienne Watteau. On a parlé donc de la manière dont était partagée l'eau jusque dans les années 80-90, ce que change l'intégration européenne. La manière dont l'eau est utilisée et dont l'eau est partagée, ça fait penser, je pense, de manière plus générale à une notion qui s'appelle le commun. Est-ce que l'eau à Melgaço, c'est un bien commun ?
Alors l'eau est un bien commun par principe, c'est-à-dire il faut faire attention, il faut bien distinguer le bien commun au singulier et les biens communs au pluriel en fait. Le bien commun au singulier, c'est un équivalent d'intérêt général. Donc c'est dans l'intérêt général de considérer l'eau comme étant à préserver, à protéger, à faire attention, c'est dans l'intérêt général de tous. Que cette ressource, parce que c'est la question aussi de son utilisation, que la ressource soit d'intérêt général. Mais les biens communs, en pluriel, c'est l'équivalent d'autre chose. C'est l'équivalent d'un système, ça définit quelque chose de précis, qu'on appelle des communs ou des commons, hein, c'est-à-dire, si on reprend les termes de Linor Ostrom, qui les a posés, ces termes, c'est une auto-organisation communautaire et fermée, un mode d'organisation des ressources exploitées en commun, avec l'accès de chacun des ayants droit à ces communs, c'est-à-dire ceux qui font partie d'une ronde ou de la boucle ou du tour d'eau, si vous voulez. Et donc là, on a affaire à autre chose. Quand on parle des communs dans ce contexte-là, selon cette définition-là, on définit ce groupe des héritiers dont je vous ai parlé et leur mode de fonctionnement en commun qui oblige à certaines... prudence dans la prise de l'eau, on ne va pas se tromper, on ne va pas prendre l'eau du voisin parce que sinon ça va créer des conflits, donc qui oblige à des prudences, qui oblige aussi à être d'accord quand il y a une situation insolite qui se produit ou quand, comme par exemple une fuite, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une fuite, qui va régler ça ? On n'a pas un système de service après, je ne sais pas, où on irait contacter quelqu'un qui serait spécialiste dans la réparation des mares. Il va falloir qu'on se mette d'accord en commun, qu'on décide de ce qu'on fait, de qui va s'y coller à cette activité. Enfin, et tout ça, ce sont des groupes d'auto-organisation qui se définissent des règles entre eux, qu'ils doivent suivre et qui obligent aussi à la corvée, par exemple, de nettoyage des rigoles avant le début de l'irrigation, parce que l'hiver, si vous laissez les rigoles libres, hein, je vous l'ai dit, l'irrigation, c'est plutôt quand on a besoin d'irriguer, c'est-à-dire l'été. Durant l'hiver, on laisse les systèmes, on laisse tout en l'état, et durant l'hiver, les plantes repoussent dans ces rigoles en terre, il faut nettoyer, arracher les racines, calfater, pour être sûr que l'eau soit réellement acheminée vers l'endroit dont on a besoin, sinon elle est perdue.
C'est qui s'occupe de ça, de cet entretien des rigoles ?
Et donc justement, qui s'entretient de l'entretien des rigoles ? C'est un membre de chaque famille des héritiers, des ayants droit.
D'accord.
Alors c'est celui que vous voulez, hein, et puis si vous n'avez personne dans votre famille parce que vous êtes fatigué, vous êtes vieux, ou que votre enfant n'est pas là qui pourrait le faire, parce que c'est un peu difficile quand même, hein, physiquement, bah vous pouvez embaucher quelqu'un en le payant si ça concerne vous. Mais pour le collectif, pour ce groupe autour du partage de l'eau d'irrigation, et bah il faut qu'il y ait un représentant. C'est pas toujours le cas, hein.
D'accord.
Des fois ils dérogent, des fois ils peuvent pas, des fois donc ça râle. Mais parce que ce sont les autres qui vont réparer les rigoles au bénéfice de ceux qui l'utiliseront ensuite. Enfin bon, c'est, dans la vraie vie, c'est comme ça aussi.
Donc c'est un commun des ayants droit.
C'est un commun des ayants droit. Alors les communs, c'est... Alors ce qui est intéressant, c'est que vous disiez tout à l'heure que le mode de partage des années 90, mais non, ça continue d'être un mode de partage d'aujourd'hui, contemporain, c'est ça qui est intéressant aussi. Ce système-là qui est en place depuis, je pense que on peut parler donc l'introduction du maïs qui va développer en tout cas ce mode de partage. Il est connu déjà en péninsule ibérique notamment, dans tous les villages de montagne pour des raisons de subsistance. C'est-à-dire qu'on avait ce qui s'appelle le communiste agro-pastoral, qui a été très étudié dans les années 50 jusqu'aux années 90. On avait un certain nombre d'espaces de montagne, plutôt de type isola, où les gens étaient obligés de fonctionner ensemble, et où on avait des espaces aussi en commun, en propriété indivise, où on avait le calcul aussi exact du nombre de vaches qui pouvaient paître dans un lieu, du moulin communautaire, du four, mais aussi du chien de garde ou du taureau pour les vaches. Enfin, on avait un ensemble d'éléments, d'infrastructures ou de biens pour le collectif comme un animal qui devaient être gérés par l'ensemble des ayants droit, avec une réunion obligatoire chaque semaine ou au moins chaque mois, et puis des obligations de répondre à ces problèmes s'ils s'en posaient. Et ne pas répondre, ne déroger à ces pratiques pouvait conduire jusqu'à l'ostracisme. Donc c'était des systèmes extrêmement forts en obligation, en droit, en amende. Avant, on commençait par demander des amendes à ceux qui ne voulaient pas faire le boulot. Bon. Donc ça, c'est une vieille pratique de péninsule ibérique qui est pré-capitaliste, j'ai envie de dire, puisque les communs aujourd'hui, quand on parle des communs, qui est un thème qui est revenu très très en force avec les années 2000, comme possibilité de penser des alternatives au capitalisme, c'est plutôt du commun, post-capitalisme, alternative au capitalisme, comment essayer de fonctionner autrement, comment ne pas être dans une relation strictement économiste systématiquement, et essayer d'avoir des groupes qui s'organisent. Donc on a, et c'est ça qui est intéressant aussi, on a dans de mêmes espaces, et non loin de Melgaço, il y a un groupe du côté de Souage, à Vol d'Oiseau, ça fait 80 km, c'est pas très loin. On a des communautés de permaculteurs, par exemple, qui s'organisent, des jeunes plutôt internationaux, c'est-à-dire on a des Portugais, mais amis ou mariés, même avec un certain nombre d'étrangers, qui viennent précisément avec une position politique plus claire pour travailler la terre, en utilisant, en faisant attention aux ressources, en faisant attention aux environnements, et en créant des systèmes aussi de roulement, d'organisation interne, donc des communs aussi. Alors, ceux-là, ils pourraient être qualifiés donc de post-capitalistes, ou au moins cette volonté-là. Et puis, on en a d'autres, des plus anciens, qui sont aussi contemporains, qui existent. Donc ça a été une de mes questions quand je suis retournée sur le terrain, que je n'avais pas posée à l'époque, parce que je n'étais pas dans cette problématique-là à l'époque. J'étais davantage dans celle du conflit. Pourquoi il y avait des conflits partout, pas... Donc cette problématique, de relire ces matériaux à l'aune de cette problématique des communs était intéressante, parce que le lendemain de la projection du film, soudain est apparu un document qu'on ne m'avait pas donné dans les années, dans 94. Alors, est-ce qu'à 25 ans, j'étais moins crédible qu'à 55? C'est possible aussi. Donc peut-être que ce papier était désactualisé, donc il avait peut-être moins de force qu'il n'en avait à l'époque. On s'était bien gardé de me le montrer. Et là, ils ressurgissent, et ils ressurgissent avec un certain nombre de mes interlocutrices qui me parlent de conflits et qui me disent « Mais le document est désactualisé, et ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas. J'ai relu votre livre, c'est vrai que vous en dites. » C'était tout à fait intéressant de voir comment aussi les gens s'étaient appropriés une lecture de l'étrangère que je suis et que je reste, malgré tout, dans cet espace. Et donc tout ça, c'est intéressant précisément parce que ça existe toujours. Ça existe toujours que de fonctionner ensemble, d'installer des principes quand même démocratiques, mais avec des obligations de fonctionnement, c'est difficile. C'est difficile de fonctionner ensemble. C'est plus simple de fonctionner chacun dans son coin. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc je leur ai demandé, je leur ai dit, mais attendez, il y a moins en moins de jeunes, de forces vives là pour travailler la terre. Je dis, mais est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas... disons de façon hypothétique, introduire des jeunes qui auraient la chance de pouvoir bénéficier de ces terres et de cette eau qui n'est pas en pression hydrique, même si il y en a un peu comme partout, mais est-ce qu'on pourrait pas instaurer dans vos rondes des systèmes? Alors j'ai eu deux sons de cloche. J'ai eu un monsieur qui m'a dit mais oui, mais qu'ils viennent, et moi je leur expliquerai, on sera ravis, on pourra redonner de la dynamique à tous ces espaces, et de toute façon on a vos données, on pourra aussi s'appuyer sur un certain nombre d'éléments qui sont maintenant écrits, au moins dans la version portugaise du livre. Et puis j'avais une autre dame qui, elle, dans un autre espace, qui me dit non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'introduire des jeunes là, ça va créer... des dissensions, et bon, elle avait quand même réussi à récupérer pas mal de terres de tous ces gens qui n'utilisaient pas d'eau, et donc l'eau, et donc elle n'avait pas vraiment intérêt à ce que la remise en place du système lui porte préjudice, pour le coup. Donc tout ça, c'est très intéressant. J'en ai parlé au maire aussi, puisque qui, lui, ne comprenait pas dans le détail cette situation. Il pensait plutôt, lui, municipaliser les eaux pour éventuellement les revendre à qui on aurait besoin. Enfin bon, on n'était pas tout à fait sur la même, sur la même logique, alors qu'il souffre, lui, au moins dans leur discours, de ces fameux problèmes de l'intérieur. Hein, toutes les terres de l'intérieur manquent de jeunes. Donc c'est quand même dommage de ne pas pouvoir, sur des systèmes déjà existants, d'essayer de voir comment les deux pourraient fonctionner ensemble.
Une alliance entre les systèmes précapitalistes et post-capitalistes.
Oui, précapitalistes, c'est moi qui les appelle comme mais des systèmes existants anciens, avec des logiques bien instaurées, et puis une force vive de gens qui pourraient justement occuper les lieux, faire des enfants, remplir les écoles et bénéficier de ce merveilleux espace.
Puis de toute façon, je pense que ça existe aussi déjà d'une certaine manière, puisque tous ces mouvements de permaculture, etc., s'inspirent aussi de... Enfin, ne partent pas du principe qu'il n'y a pas d'alternative à l'agriculture industrielle, puisqu'il existe d'autres manières de faire. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer pendant l'émission. Il y a d'autres manières de faire qui ont existé, qui existent encore. Et c'est bien de s'en souvenir dans un monde où on a l'impression que de toute façon, il n'y a que l'industrialisation qui marche. J'avais une question sur la notion de bien commun encore. Est-ce que, ou d'organisation autour des communs, parce qu'on a vu que ce n'était pas... est-ce que cette notion et la notion de partage sont intrinsèquement liées ?
Il y a au moins un partage de valeurs. Il y a au moins un partage il faut qu'on se mette d'accord. On peut ne pas être tout à fait d'accord avec l'ensemble des règles, mais il faut bien... que dans le fonctionnement d'un commun, il y ait des règles posées, que les gens les acceptent, les négocient, les ajustent au cas par cas, en fonction des situations. Tout ça, c'est justement le principe d'un groupe qui parle, qui s'écoute et qui décide en commun de ce qu'ils ont, de la façon dont ils vont procéder pour partager la ressource, et là, ici, en l'occurrence, l'eau. Cette eau, elle reste d'une certaine façon privée. Donc c'est ça aussi qui parfois est étrange, c'est que l'eau en droit, il y a eu un livre tout à fait intéressant fait par des juristes il y a très peu de temps, 2023, qui s'appelle « L'eau est-elle un bien commun ?» et qui réfléchit à partir donc des juristes de cette question de propriété, on peut avoir, il est difficile de s'émanciper de la propriété, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire de l'eau parce que le droit a été posé et c'est très difficile de s'en défaire. Hein. Ce n'est pas un bien commun dans le sens intérêt général. C'est vraiment les rivières appartiennent aux municipalités, l'eau que vous avez sur votre terrain vous appartient, il y a de la législation partout, donc c'est extrêmement compliqué. Alors ça peut être de la propriété individuelle, ça peut être de la propriété collective, ça peut être de la propriété indivise, mais il y a souvent des obligations. Et c'est extrêmement difficile de démêler l'ensemble de ces droits, puisque dès qu'il y a spoliation, dès que quelqu'un détourne l'eau même d'une source, et ben vous allez avoir, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on retrouve dans les archives, notamment là, à Porto, dans l'hydraulique, des conflits anciens, même, et c'est au moment de ces conflits qu'on a les raisons de ces conflits et tout ce qui est de l'ordre de la résolution pour démêler ces droits, et on a plein de cas. Donc en effet, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, c'est intriqué, en tout cas en termes de valeur, en termes d'acceptation, et puis après, bah, c'est complexe.
C'est complexe. C'est presque un peu provocateur de dire que l'eau est privée, alors qu'en fait, effectivement, en fait, je trouve aussi que dans l'imaginaire, on a l'impression que c'est fluide, c'est mouvant l'eau, donc on se dit comment on peut la posséder,
l'approprier.
Comment on peut posséder l'eau. Et en fait, oui, effectivement, le droit est partout. Et...
Bah, l'eau appartient à Veolia, hein, l'eau qui vous arrive dans les robinets, vous la payez pour les services, pour le service. Ouais. Tout ça, tout est organisé, elle n'est pas... Donc c'est un peu trompeur. Et c'était l'idée des communs, de l'air, de la terre, des forêts. Il y avait des communaux, donc c'est de la propriété individuelle. C'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser. Vous avez le film merveilleux d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, qui raconte tout ça, hein, qu'il existe aussi du droit d'utiliser les après-récoltes. On a une législation qui est posée. On a une législation précise, justement, qui dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et sur les ressources aussi. Donc l'eau, il faut faire très attention, surtout la ressource. L'eau n'est pas manquante en soi. Hein. On dit qu'il y a de moins en moins d'eau. C'est vrai et c'est moins vrai. C'est-à-dire que l'eau prise dans son circuit classique, celui qu'on apprend à l'école du cycle de l'eau, elle va continuer à tourner, à faire son cycle, à s'évaporer, à tomber. Mais ça prend des milliers d'années, ce circuit-là. Ouais. Donc on parle maintenant d'un cycle hydrosocial dont a parlé Jamie Linton notamment, où là il est question de la ressource, c'est-à-dire aussi de regarder l'ensemble des acteurs autour de la gestion de cette eau-là sur un temps plus humain qui est bien plus compliqué. Et là il y a pression, oui, en effet. Et toutes les eaux polluées qu'on rejette, c'est de l'eau moins disponible.
Et oui. Et ça. On boucle la boucle puisqu'on revient à ce que disait Anne-Maureen Bastier au niveau des bassines dans le Marais Poitevin, puisque c'est une question politique et d'organisation et peut-être pas seulement climatique et de ce grand cycle qui nous dépasse un peu. Merci Fabienne Watteau.
Merci à vous
pour tout ça. On reparlera dans la deuxième émission de ces questions de droit et de législation et des valeurs que ça charrie et que ça crée autour des ressources dans la deuxième émission. J'en dis pas trop pour l'instant parce que je suis pas sûre encore de qui sera là ou pas. Mais en tout cas, on partira plutôt sur la législation internationale cette fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. On finit en musique aussi avec la magnifique réinterprétation de Life on Mars par Seu Jorge, le chanteur brésilien. Bonne soirée.
Bonsoir. Não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que quero abraçar você. Seu poder vem do sol.
minha medida, meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Não vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.